Honneur aux dames, c'est en quelques mots ce que l'on peut dire aujourd'hui pour cette émission que nous consacrons à l'humour au féminin. Pour les femmes que nous avons croisées, faire rire signifie la même chose que l'on soit une femme ou un homme. À partir du moment où l'on décide de monter seul sur scène, la difficulté de s'imposer face au public, c'est la même pour tout le monde. Les femmes que nous allons entendre aujourd'hui ont toutes leur personnalité et leur vie, évidemment, qu'elles s'appellent Sylvie Joly, Agnès ou Anne Roumanoff. Elles sont toujours animées avant tout d'une passion pour la scène. Elles ont toutes de drôles de vie et ce qui fascine, c'est le bonheur qu'elles partagent lorsqu'elles sont sur scène. La première qui s'exprime dans cette émission, c'est Muriel Robin. Nous l'avions déjà entendu dans un numéro consacré au théâtre Tintamarre à Paris. C'est donc en 88 que je l'avais rencontrée, une année riche pour elle, qui a passé par le théâtre de Bouvard et par la classe, et qui, en cette fin des années 80, était donc une révélation comique féminine.
C'est bien, oui, j'entends des bonnes choses, mais en tout cas, ça marche bien. Quoi. Concrètement, c'est plein tous les jours, et ça, c'est très agréable.
Faire rire son public lorsque l'on est femme, est-ce que c'est différent ou plus difficile que lorsque l'on est un homme?
Je crois que c'est difficile, effectivement. Moi, je me disais quand j'étais spectatrice, j'ai toujours admiré les one-man shows. Et homme ou femme, c'est vrai que... Bon, maintenant, j'ai plus envie de le dire parce que j'aime pas dire que ce que je fais, c'est difficile. Je suis heureuse, c'est plein. Mais c'est vrai que quand j'étais spectatrice, je me rappelle que je voyais un mec seul en scène. J'étais admirative de ça parce qu'on est tout seul et c'est vrai. Et maintenant, je sais de quoi, comment ça marche parce qu'on est tout seul, on s'appuie pas ni sur le décor, ni sur le copain, ni sur rien, quoi. Alors le jour, il faut être là, mais le plaisir est tout pour soi aussi.
Justement, alors, l'autre jour, avec une amie, on a relu des textes de Prévert, c'était très agréable. Vraiment, on a passé tout un après-midi, je n'ai jamais su celui-là, donc je ne sais pas pourquoi je le saurais ce soir. Hein. Je n'ai pas un dictionnaire sur vous, monsieur. Alors, après-midi, on regarde un Après, où il est cet après-midi? Un rocher trop loin. Après-midi, voilà. Masculin, un après-midi. Après-midi, partie du jour, depuis midi jusqu'au soir, donc ça c'est bon, hein, bien sûr. Après-midi, après-demain, le second jour, après celui où l'on est. Et oui, donc là par exemple, on est vendredi, samedi, dimanche. Après-demain, c'est dimanche. Ça marche, mais... Un après-midi, je m'en rappelle jamais. Un après-midi, par contre, une artère, ouais. Comme quoi, il n'y a pas de règle, ça dépend des mots. Bah oui. Oh, c'est bien les dictionnaires, parce qu'il y a plein de mots, il y en a quelques-uns qui sont très jolis, c'est vrai, il faut bien le dire. Je sais pas, regardez, aquarium, récipient dans lequel on entretient des plantes et des poissons. Marqué, on se dit bien qu'on peut y mettre des patates et des clés de douze, enfin. Franchement, il y en a qui sont fastoches, je pourrais les virer. Moi,
les archives du rire.
Mimi Mati, elle vient de fêter ses 60 ans il y a quelques semaines. Et il est vrai que sa carrière est exemplaire. Ses rôles dans les téléfilms sont toujours justes parce que Mimi Mati joue vrai. Comme elle l'a toujours fait depuis le théâtre de Bouvard et la troupe de Michel Fugain. La scène est ce qu'elle a toujours voulu faire et elle a été aussi particulièrement motivée par ses parents. Elle nous en parlait justement au début des années 90 au Festival du Rire à Montreux.
Enfin, c'était pas un grand travail parce que je crois que c'est ce que j'avais en moi, mais c'est vrai que c'était pas gagné d'avance parce que jusqu'à présent, ce qu'on avait proposé aux gens de petite taille, c'est toujours des rôles ridicules, c'est toujours des rôles de gnome difforme entre guillemets. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire le métier de cette façon-là. Moi, je voulais prouver que le monde est fait de plein de gens différents et que c'est pas parce qu'on mesure 1m35 que on est forcément moche et le méchant. Alors que c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent dans tous les films, quand on voit les films des années 50 ou même des années 40, les gens de petite taille ont toujours le rôle du méchant. Et en ce moment, je sais pas si c'est parvenu jusqu'à chez vous, je suis en train de me battre contre quelque chose que je trouve ignoble, qu'est le lancer de nain, parce que c'est quelque chose qui pour moi est abject, quoi. Ça dévalorise complètement, on se sert d'une différence physique pour en faire quelque chose de grotesque, alors que je pense pas qu'il y ait besoin de ça. Je pense que le monde, heureusement que le monde est fait de plein de gens différents, autrement on s'ennuierait, mais faut pas s'en servir du mauvais côté.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, c'est parce que c'est trop bon.
J'en ai fait des prières pour qu'il y en ait au moins un sur cette terre qui veuille de moi. Ça j'en ai allumé des cierges. Dans les églises, les abbayes, les chapelles, les cloîtres, les cathédrales, les basiliques, les processions. Ça, j'en ai foutu des pièces dans les troncs. Avec ce que j'ai raqué en cierges, je l'ai payé 10 fois le ravalement de Notre-Dame.
Ça aurait pu être difficile au début, mais je pense que c'est bien passé. Depuis le théâtre de Beauvoir qui m'a permis de m'exprimer, de me montrer, je crois que je m'en sers pas énormément de ma taille. Je m'en sers pas plus que Catherine Deneuve se sert de sa blondeur ou que Adjani se sert de ses yeux bleus, quoi. Je veux dire, ou que Belmondo se sert de ses muscles pour faire ses cascades. Je crois que je suis comme je suis. Et maintenant, c'est passé dans l'esprit du public, donc j'ai plus besoin de le souligner. Mmh. On me voit arriver comme on voit arriver quelqu'un d'1m50 ou quelqu'un d'1m80.
Déjà 10 ans. De petits bonheurs, de grandes joies, de partage, pas une engueulade. Ou alors à peine une ou deux par jour. On est complices, on se complète tellement. Bon. Physiquement, c'est vrai que notre couple peut surprendre, j'en suis très consciente. Déjà, on est hétéros. Et en même temps, quand on n'a pas les mêmes goûts, on se fait découvrir. Moi, par exemple, je n'aime pas la campagne. Lui, il adore la campagne. Eh ben, on a acheté une maison à la campagne, dans le sud. Et depuis la campagne, je ne l'aime toujours pas. En même temps, je suis admirative, hein, mais je n'y peux rien. J'ai peur des petites bêtes. À tel point qu'il y a une émission de télé que je trouve super, mais que je ne ferai jamais. Rendez-vous en terre inconnue. Frédéric Lopez me l'a proposé, mais j'ai beau me le tourner dans tous les sens, je me le sens pas. Je suis peut-être trop méfiante, et je tiens à préciser que je ne suis pas raciste, mais débarquer dans une tribu de pygmées, au fin fond de la Patagonie, d'ici qu'ils me prennent pour une des leurs. Version albinos. Et qui me laisse pas repartir.
Charlotte de Turckheim, son nom le dit bien, elle est née dans une famille d'aristocrates. Sa bio n'est pas banale. La baronne, Charlotte de Turckheim, est la fille du baron Arnaud de Turckheim et de la baronne née Françoise Husson. Après son baccalauréat, elle exerce divers métiers comme secrétaire, marchande de vêtements ou professeur de français, et entame aussi des études de théâtre. Saviez-vous que c'est Coluche qui lui écrit son premier one-woman show au théâtre d'Edgar en 1979 ? C'est également Coluche qui lui offre son premier vrai rôle au cinéma dans Le Maître d'école de Claude Berry en 1981.
Dans sa maison, le grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et parler ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main.
Charlotte de Turckheim, une belle rencontre à Morges dans les années 90.
Est-ce que vous comptez vos journées, parce qu'il y a eu la journée chez votre mère, une journée à vous, est-ce qu'une journée compte beaucoup chez vous?
Je ne les vois pas défiler, je dirais, les journées. Oui, ça c'est sûr. Donc est-ce qu'elles comptent? Oui, elles comptent, mais en même temps, je ne les vois pas passer. Mm-hmm. C'est vrai. Mais je crois que je ne les vois pas passer comme toutes les femmes qui travaillent, qui ont des enfants et qui jonglent entre le boulot, la maison, leur vie personnelle, etc. Qu'on soit comédienne ou qu'on fasse n'importe quel autre métier, de toute façon, les femmes qui bossent et qui ont des enfants, on a des vies de cinglées, quoi.
Mmh. On dit qu'une journée sans rire est une journée de foutu.
Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis quand même étonnée de ce que le rire fait comme bien. Moi, j'apprécie énormément les gens qui me font rire, ça c'est sûr.
Cathy ? Cathy ? Où est-ce qu'elle est, l'autre ? Cathy, il y a votre fer qui est brûlant, là.
Oui, Charlotte, qu'est-ce qu'il y a ?
Ah, Cathy, je suis en retard, je vais être sur le tournage à 9h. Alors, je vous explique. Le médicament du bébé, le Clamoxyl, c'est 2 mesures 2 fois par jour. Hein. Ah, 2 mesures 2 fois par jour, oui, c'est d'accord. Bah, qu'est-ce qui se passe avec votre pied? Ben, je sais pas, sa gueule. Bon, ben, sinon, on se retrouve à 18h à la kermesse de l'école, hein. 18h? Oh là là, la kermesse plus le bain plus le dîner, ça va faire finir tard, hein. Moi, je suis crevée.
On dit toujours que Charlotte de Turckheim fait du one-woman show, mais là, c'est quand même presque une pièce de théâtre où ça pourrait presque être un film.
Ben vous savez, ce qui est drôle, c'est que ça a été traduit en allemand et ils l'ont joué, ils ont distribué tous les rôles.
Ah oui ?
C'est drôle. Alors, j'ai pas été le voir, malheureusement, mais je regrette beaucoup. Ça a été traduit en italien, mais par une fille qui fait du one-woman show. Mais, on m'a demandé une adaptation pour la télévision canadienne, pour en faire une série pour la télé. Et là, ils vont distribuer aussi tous les rôles. C'est drôle, hein ?
C'est quelque chose d'étonnant.
Oui, je me demande ce que ça va donner, alors là.
Mais vous, quand vous l'avez écrit, enfin, vous ne l'avez pas écrit seul, mais quand vous avez créé ce spectacle, est-ce que vous l'avez imaginé aussi à plusieurs personnages ?
Ah non, jamais. Moi, quand je crée mes spectacles avec Bruno Gassiot et Jacques Descombes, et on imagine toujours que c'est pour le jouer seul, mais effectivement, quand je relis le texte, je m'aperçois qu'on pourrait le jouer avec plusieurs acteurs.
Bon, et bien tout le monde sur le plateau pour répétition.
Famille d'accueil, vous connaissez bien sûr cette série proposée par France Télévisions. 14 saisons de 2001 à 2016 avec Christian Charmetan dans le rôle de Daniel Ferrière et Virginie Lemoine dans le rôle de Marion. Avant cette série, avant même de créer le duo avec Laurent Gérard, Virginie Lemoine tournait avec un spectacle solo intitulé « Le syndrome de Madame Chiasson » mis en scène par Alain Saxe.
Mode d'emploi. Vous venez d'acheter une paire de chaussures. Modèle Katia KW832, semelle spéciale antidérapante à alvéoles larges, coloris Black Pepper. Katia KW832, semelle spéciale antidérapante à double alvéole large, coloris Black Pepper. Ces chaussures ont gagné le grand prix de la maroquinerie, semelle d'or de Roubaix 1972.
Passionnée de théâtre, elle va donc toucher à tout. La télévision, la radio avec Laurent Ruquier, entre autres, le théâtre et le one-woman show. Une femme qui travaille beaucoup, mais qui préfère largement le calme et la tranquillité. Virginie Lemoine.
Bah, je suis très 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 paresseuse. Alors déjà, j'ai pas du tout besoin de toute cette vie. Moi, j'en fais, mais je me porte. J'adore être en vacances. Mais je crois que je suis à un stade. Je suis très très chanceuse de travailler comme ça. Et puis, je suis à un stade où on peut pas encore choisir dans ce métier. C'est-à-dire que je fais des choses qui sont très intéressantes et vraiment sympas à faire. Ça me fait vraiment plaisir. Et il y a un stade, je crois, dans ce métier où le boulot tombe. Et on peut pas dire non. On peut choisir ses rôles. On peut choisir ses émissions, mais à partir du moment où on est engagé dans quelque chose qui nous paraît intéressant, on doit le faire. Mmh. Je pense qu'il y a un stade, après, on est plus connu, un stade un peu plus confortable, où on peut dire, bon, ben, la radio, pour l'instant, j'en fais pas, j'en ferai dans 2 ans, si vous le voulez bien, et on nous attend. Mais là, j'en suis pas encore là.
Il est vrai que l'on souffre à coiffer ses cheveux, et leur moindre défaut s'offre vite à nos yeux. Vous devriez changer pour un style sauvage qui s'irait à merveille à votre doux visage. Mais avant d'accomplir aucun de ces soins, Patricia va venir vous faire votre shampoing.
Virginie Lemoine, est-ce qu'il y a des femmes humoristes qui vous ont inspiré ?
Inspiré, non, parce que je pense pas que... quelqu'un qui m'a inspiré, c'est Deschamps. Jérôme Deschamps m'a inspiré. Mais en revanche, il y a des femmes humoristes que j'apprécie beaucoup, comme Sylvie Joly, par exemple. J'aime beaucoup Sylvie Joly. Elle me fait beaucoup rire. Mm-hmm. Marianne Sergent. Voilà, j'aime beaucoup, oui. Marianne Sergent. Je trouve qu'elles ont créé quelque chose. Sylvie Joly a été moultement copiée après. Mais j'aime bien les gens qui créent quelque chose. Je trouve ça très décevant d'aller voir quelqu'un sur scène et d'avoir l'impression d'avoir déjà entendu ce qu'il dit, mm-hmm. d'avoir déjà vu ce qu'il fait. Je suis très sensible à ça. Je pense qu'il faut essayer vraiment de faire son truc.
Elle le disait à l'instant, les femmes qui la fascinent dans le domaine de l'humour sont entre autres Sylvie Joly et Marianne Sergent. On y vient, Marianne Sergent, c'est vraiment la femme de Café Théâtre avec un vocabulaire unique. Elle navigue entre la poésie et la vulgarité, mais penche plutôt du côté du cul. Mais en interview, quel bonheur! On a vraiment passé des moments géniaux avec elle dans sa loge des Faunés à Lausanne. Marianne Sergent fait vraiment partie de la famille comique de Coluche Et elle en est plutôt fière.
Ouais, de toute façon, c'est très flatteur parce que moi, j'adorais Coluche, quoi. D'abord, c'était un pote et puis en plus, il me faisait pisser de rigolade. Donc, c'est toujours très agréable d'être comparé à Coluche. Mais je crois qu'il y a une question de verbe, hein, il y a une question de pays parce qu'on était pays quand même. Et puis une question de génération, puis une question de propos, quoi. On était quand même pas mal à nard les deux, quoi. Donc, je pense qu'on est surtout tous les deux des enfants de Bouteille, peut-être. C'est peut-être là aussi le rapprochement. Enfin, lui, il a bossé avec Bouteille. Moi, j'ai pas bossé avec Bouteille ou j'ai bossé après avec lui, mais je me retrouve bien dans son langage et nous dans notre famille on l'appelle le pape, c'est pas par hasard, quoi, tu vois, c'est un peu le papa. Il y a plusieurs papas. Avron est un papa parce que c'est des mecs qui sont plus âgés que nous, plus âgés on en a rien à foutre, mais enfin je veux dire qu'on commençait ça tôt et puis qu'ils nous ont tous apporté quelque chose, quoi. Je pense qu'il y a cette affinité là, quoi.
Si vous saviez comme je parlais d'amour, je parlais que de ça. Et le cul aussi. Quelquefois, oh, mon collant Kim Basinger. Je parlais que de ça et de cul aussi. Et c'est quelquefois, j'amalgamais pulsion, passion, harmonie, amitié, histoire de bonde. Hein. C'est pas difficile. J'étais tout le temps amoureuse, une cata. Tu sais, l'état amoureux qui te passe sans transition de la niaise, hilar, à l'onychophage ravagé. On est con quand on est amoureux, on est con. Je sais pour vous, mais moi...
Qu'est-ce que c'est que la vulgarité? Si la vulgarité, c'est le langage du vulgum pecus, alors on est très fiers d'être vulgaire, tu vois. Mais si la vulgarité, c'est pris au sens péjoratif du terme, pour moi, la vulgarité, c'est de défendre la peine de mort aujourd'hui, et c'est de... Tu vois, c'est ça pour moi, la vulgarité, c'est un truc... c'est de la grossièreté, mais si Coluche est vulgaire, alors vive la vulgarité, quoi.
Tu vas sonner, saloperie de bordel à cul, de téléphone de chiottes de merde, et tu vas sonner, dis ordure.
Quelle est pour vous la définition de l'amour, par exemple?
Ah ben, l'amour, c'est la plus belle chose du monde, ça. Il y a pas de mots pour définir ça, quoi. L'amour, c'est la raison de vivre. Et puis ce qui est bien, c'est que ça peut exister à deux. Et puis ça peut exister à plusieurs. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que ça serait bien de parler un peu plus d'amour et un peu moins de guerre. Bon, évidemment, mais moi, je suis de la génération Peace and Love, alors qu'est-ce que tu veux? On s'en remet pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est des situations difficiles. Et puis, en l'occurrence, aujourd'hui, prendre parti pour ou contre l'Irak, pour ou contre le Covid, c'est vraiment des trucs dingues, quoi. Que tu peux pas rentrer dans des délires invraisemblables. Mais la notion de paix, de respect de la vie et d'amour, au sens le plus chrétien et le plus bateau du terme, c'est noble, quoi.
Et l'humour?
Ah bah l'humour, ça va avec. L'humour, ça va avec. Moi, je dois dire que faire l'amour avec humour, c'est quand même le top, quoi, tu vois. Si en plus, tu te fends la gueule, c'est extra, quoi. Moi, l'homme qui vient donc de me pondre, là, enfin, qui a pondu à l'intérieur, qui m'a mis la graine qui pousse, j'arrête pas de me fendre la gueule avec lui, et c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je crois que je le dis une banalité, tu vois, totale, mais je crois que c'est pour tout le monde pareil, quoi. Plus tu t'amuses avec la femme ou l'homme que tu aimes, et plus c'est magique en plus, quoi.
Les archives du rire.
Sylvie Joliste, une autre personne, son langage est aussi assez cru comme on l'utiliserait dans la vie de tous les jours, mais chez elle, il y a eu, j'imagine, un réel besoin de s'affirmer. Dans sa famille, on ne pouvait pas admettre qu'elle exerce le métier de saltimbanque et surtout pas une femme comique. Elle a donc suivi des études afin de devenir avocate. Et puis, chassé le naturel, il revient au galop. C'est donc tout naturellement que Sylvie Joly brûle les planches. En 1991, dans son spectacle « La si jolie vie de Sylvie Joly », elle se dévoile entièrement et exprime jusqu'au bout son parcours du barreau aux planches.
Vous vous dites de temps en temps, elle peut être marrante, cette Sylvie Joly. Elle peut nous faire croire que ça va mieux, ou même que ça va bien. C'est ça, d'accord. Et moi, je vais voir qui pour avoir l'impression que ça va bien? Vous, peut-être. Parce que moi, c'est comme vous, ça va moyen, moi.
Le spectacle s'intitule « La si jolie vie de Sylvie Joly ». Est-ce que cela veut dire que vous parlez de votre vie dans votre spectacle? Est-ce que vous mettez votre vie en scène?
Mais vous ne pouvez pas dire mieux, vous ne pouvez pas mettre plus dans le mille. C'est exactement ça, c'est vraiment une pièce de théâtre, ce ne sont pas des sketchs. Et vraiment, donc ça commence à avant ma naissance et donc les influences du côté des spermatozoïdes, tout est catastrophique du côté des ovaires. mer, tout est magnifique. Et bon, et après ça, ça va être toute la vie qui va se suivre. Et l'éducation chez les bonnes sœurs et tout ça. Et la première surboom et le candidat possible qui doit être ceci, ceci, cela. Et c'est drôle parce que les gens se retrouvent. C'est tellement vrai, toute cette vie. Parce que c'est non seulement drôle, mais aussi il y a des moments très émouvants. Et les gens se retrouvent, quelle que soit leur origine sociale, dans cette vie.
Vous avez toujours tendance à vous plaindre, à nous rebattre les oreilles avec vos problèmes. Mais ça pourrait être pire. Oh là là là, bien, bien, bien pire. C'est ça qui va pas. Ne pas savoir si ça va mal à fond ou si ça va être encore pire. Moi, je suis quelqu'un de très réceptif. Surtout aux contrariétés.
Votre père ne le voyait pas toujours d'un bon œil que vous vouliez monter sur scène?
Ah, le voyait d'un très très mauvais œil. Non, c'était carrément pas possible. C'était vraiment, agenouille-toi devant ton père, tu n'auras plus le droit de porter notre nom. C'était vraiment, les comédiens enterraient la face contre terre. C'était quelque chose d'abominable de monter sur les planches. D'ailleurs, c'est drôle, parce que par exemple, mon frère et ma sœur qui ont écrit La si jolie vie de Sylvie Joly, puisque depuis 15 ans, ils écrivent pour moi, ils sont devenus le pool d'écriture, Fanny et Thierry, c'est vrai qu'eux, ils ont quelque chose d'honorifique. La plume, ça a quelque chose d'honorifique. Mais les planches, c'est très très récent que je puisse parler de ce que je fais. Je veux dire, quand on avait des grandes réunions comme ça, tout le monde, mon frère cardiologue, parlait de son métier de médecin, etc., ingénieur, tout ça, banquier. Mais moi, au fond, maman me coupait très vite la parole. C'était vraiment quelque chose... C'est très récent que je puisse en parler, qu'on se dise, après tout, c'est pas un métier si nul, hein. C'est pas nul quand même.
Ça fait 3 semaines que t'es pas allé au cours. Ça t'intéresse plus? Non mais je rêve, ça t'intéresse plus. Mais moi, tu vois que ça m'intéressait, moi? Ah très bien, ça t'intéresse pas non plus, savoir si ça m'intéressait ou pas. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Rien. Tu dis rien, alors rien ne t'intéresse, c'est ça? Parle plus fort, mon petit, j'entends pas ce que tu dis, je dois avoir des morceaux de carrelage dans l'oreille. Tu écris des poèmes? Des poèmes, c'est pas un métier ça, mon petit. T'en as parlé à monsieur Youssoupov? Et il dit que tu devrais faire du quoi? Du théâtre? Mais c'est quoi ce Youssoupov-là? Qui il est pour dire des conneries pareilles, celui-là? C'est le conseiller pédagogique de Staline!
Il y a encore 2 femmes que je voudrais vous présenter ici. La première, c'est Agnès, connue dans les années 80 grâce au jeu de 20 heures à la télévision. Elle prenait une petite voix de petite fille et racontait la découverte de la sexualité, par exemple, chez les gosses, avec une poésie incroyable. Elle a débuté dans les Vosges. Elle est montée à Paris. Nous l'avions rencontrée lors d'un spectacle qu'elle donnait avec Olivier Lejeune, Patrick Adler et Jean-Jacques Devaux. Ça s'appelait Ménage à 4, l'occasion de rencontrer Agnès Bareille.
Lui, c'est déjà un grand. Hein. Il a de l'expérience. Il a 10 ans et demi. Lui, il a déjà flirté avec une fille de son école, avec Catherine Dugommier. Marcel, qui l'a cherché, lui faisait l'œil avec ses jambes. Et...
Comment ça a commencé? Vous avez commencé par faire des petits cabarets, vous passiez d'un coin à l'autre avec tous les personnages que vous aviez créés?
C'est-à-dire que c'était des coups de chance, j'ai rencontré des gens au moment où il fallait, quand il fallait. Moi, je suis originaire de l'Est de la France, des Vosges, et dans les Vosges, il y a un personnage qui est très connu chez nous qui s'appelle Claude Vanoni. Vous connaissez en Suisse, c'est merveilleux. Et au début, au moment où j'ai commencé dans ma région, dans l'Est, Claude Vanoni cherchait une présence féminine dans ses spectacles pour ses premières parties. On s'est rencontrés au bon moment, au moment où il cherchait justement cette présence féminine. Ils auraient pu tomber sur quelqu'un d'autre. J'ai la chance que ça tombe sur moi, qu'on s'entende très bien, que ça marche bien. Et j'ai appris mon métier finalement avec lui pendant 5 ans. Et ça a démarré comme ça. Donc j'ai commencé à faire des salles dans ma région, dans l'Est. Puis ensuite, je suis montée à la capitale, à Paris, comme on dit. Et là, j'ai fait une autre facette du métier. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des cabarets, ce qui est beaucoup plus dur que de faire des salles en province ou en Belgique ou en Suisse. Donc là,
là, j'ai encore appris une autre facette de mon métier. Et puis après, bon, ben, ça a évolué. J'ai fait des premières parties de chanteur à l'Olympia. J'ai fait des tournées, j'ai fait des télévisions. Donc, je gravis des échelons petit à petit. Voilà.
Alors, pour se fiancer, c'est facile aussi. Je t'explique grièvement. C'est comme si on t'offrait une trottinette à Noël et que t'as pas le droit de t'en servir avant Pâques. Mais je crois que t'as le droit de jouer avec la sonnette quand même.
Les archives du rire.
La dernière, reconnaissable entre toutes à sa robe rouge, c'est Anne Roumanoff. Je l'ai croisée plusieurs fois, dont la première en Suisse d'Anne Roumanoff en décembre 1990 au Faune et à Lausanne. Dans toutes ces rencontres, il y a eu celle de janvier 2001. Après plus de 10 ans de scènes de radio et de télévision, Anne Roumanoff me parle de son métier.
J'ai toujours voulu faire ce métier, réussir, mais les doutes, l'angoisse, l'incertitude sont toujours présents. C'est sûr que le succès conforte, donne de la confiance, renforce, mais ça n'enlève pas les doutes, quoi. Et de toute façon, les doutes, c'est ce qui fait avancer l'artiste, parce qu'un artiste qui est content de lui, il n'a plus qu'à se reposer dans une chaise longue et il n'avance plus, quoi. Et un artiste, surtout quelqu'un qui crée, qui écrit, on doit tout le temps, perpétuellement, se remettre en cause.
Et vous savez que ça y est, je suis rentrée dans le 21e siècle, je suis connectée à Internet, je surfe, je navigue. Enfin, pour l'instant, je rame. Ça a commencé quand j'ai acheté l'ordinateur. J'ai dit au vendeur, monsieur, je voudrais un Mac parce que PC, ça veut dire plante constamment. En plus, mon ordinateur, j'essaie de faire tout ce qu'il me dit et lui, il fait rien de ce que je veux. Déjà, quand il me parle, je comprends rien. Vous avez mal éteint l'ordinateur, nous allons le reconfigurer. Qui, nous? Ils sont plusieurs là-dedans.
Un de vos premiers spectacles s'intitulait « Je bosse comme une folle, j'ai plus une minute à moi, c'est du délire ». Il y avait « Calme-toi Bernadette »,« Nous les femmes »,« Dimanche je me marie », beaucoup d'autres. Vous écrivez beaucoup, vous avez un besoin d'écrire sans cesse?
Non, j'ai pas le besoin, parce que j'aimerais bien avoir le besoin d'écrire. Non, j'ai pas le besoin, c'est indispensable dans ce métier, mais c'est vrai que j'ai fait 7 spectacles en 10 ans, ce qui est pas mal par rapport à d'autres gens qui en ont fait 2 ou 3 pendant la même période. Mais ça, c'est après, c'est le rythme de la création qui était comme ça pour moi, ou ça n'a pas été un choix aussi, ça s'est fait comme ça, d'une manière un petit peu empirique. Mais j'ai toujours l'angoisse de pas arriver à écrire, de pas trouver de nouvelles idées. C'est toujours un souci, quoi.
Encore aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Mmh. Plus que jamais. Mais...
C'est ce que ça veut dire, PC? T'es con. Alors, j'ai acheté une super imprimante sophistiquée, mais alors, manque de bol, j'ai jeté le driver d'installation avec le carton d'emballage. Le driver d'installation, pour ceux qui ne savent pas, c'est la disquette que tu mets dans l'ordinateur pour lui dire qu'il est relié à l'imprimante. Sinon, il est pas au courant. 7000 balles, il est pas au courant.
Une part de folie chez vous, même s'il y a toujours eu la timidité, vous avez toujours parlé de votre timidité, mais ça ne vous a pas empêché de créer un espèce de gouvernement à l'école dont vous étiez évidemment la présidente. Moi, j'ai lu un truc sur votre papa qui avait créé une entreprise et qui l'avait vendue par la suite. Vous pensez que dans votre famille, il y a toujours eu ce brin d'humour et ce brin de folie qui vous animait?
Brin d'humour, je ne sais pas, mais brin de folie, en tout cas, peut-être. En tout cas, c'est vrai que je viens d'une famille qui n'est pas très conventionnelle, puisque en effet, ça fait 20 ans que mon père écrit des livres de spiritualité sur son maître indien qui est mort il y a 20 ans, donc c'est assez particulier. Et c'est vrai, mais moi j'ai plutôt souffert en fait toujours de pas être assez conformiste. Je suis quelqu'un de très conformiste et toute mon enfance et mon adolescence, je regrettais de pas être comme tout le monde. Maintenant je me suis aperçue qu'après c'était une chance de pas être comme tout le monde. Mais sur le coup, quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on perçoit ça plutôt comme un défaut, quoi.
Mais vous aviez quand même tout de suite trouvé la voie parce que vous vouliez être comédienne et de fait vous y êtes arrivée, vous le saviez très vite. Où vous vouliez aller?
J'ai su quand j'avais 12 ans que j'avais envie d'être comédienne, mais su que j'allais y arriver ou que je pouvais y arriver, c'est uniquement quand j'avais 22 ans. Entre les deux, j'ai quand même eu 10 années de doute, d'incertitude, de remise en question aussi, quoi.
Il y a eu une première audition dans un endroit qui s'appelait le Yankles.
Yankles.
Le Yankles. Ouais.
Voilà. Vous y pensez parfois encore? Vous en avez des souvenirs?
Ben c'est un petit cabaret, un restaurant juif d'Europe de l'Est et qui a fait faillite depuis. Moi, je les remercie, mais je n'ai jamais eu l'occasion de revoir les propriétaires pour les remercier de m'avoir engagée. Mais oui, c'est très important, le premier engagement, les premières personnes qui vous disent oui. C'est vrai qu'on en garde une gratitude parce que c'est la première fois qu'on vous veut bien de vous quelque part et ça vous donne confiance.
Sur Internet, il y a les chats, les dialogues en ligne. On peut discuter avec des gens du monde entier qu'on connaît pas et qu'on sait pas quoi leur dire. Sur Internet, on peut écouter la radio tout en payant le téléphone.
Quelques femmes et beaucoup d'humour, c'était l'émission que nous avons partagée aujourd'hui avec Muriel Robin, Mimi Mati, Charlotte de Turckheim, Virginie Lemoine, Marianne Sergent, Sylvie Joly, Agnès et Anne Roumanoff, rencontrées à Montreux, Morges, Vienne, Paris et Lausanne entre 1988 et 2001. Un rire au féminin qui ne fait que du bien, qu'il soit teinté de poésie ou même parfois de vulgarité, parce qu'elles nous prouvent que leur vision de la vie est parfois différente, mais tellement indispensable. Je vous embrasse donc, mesdames, qui savez si bien mettre une belle pointe d'humour dans notre quotidien. À bientôt !